Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci d'être nombreux à l'écoute de ce magazine. Quelles sont les aspirations de la RDC à la COP 26? Eh bien, nous en parlons dans cette émission Okapi Service. En ligne, Guy Nkajemba, coordonnateur du groupe de travail climat RED, RED+. Guy Nkajemba, bonjour. Guy Nkajemba, bonjour. Bien, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Nous allons le recevoir tout à l'heure. Nous recevrons également Madame Jeannette Boussingissi, chef des services de l'Agence congolaise de l'environnement. Alain Parfait Ngulungu, représentant pays de Tenure Facility, sera également l'un des intervenants dans cette émission qui s'intéresse à la COP 26. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler des zones urbaines, comment rendre viables les zones urbaines de la République démocratique du Congo. Apollinaire Kitenge, architecte Michel Oyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP, sera dès la partie, et nous recevrons également le professeur Barthélémy Kalambay Banza, qui est démographe. Pour participer à cette émission, composez déjà le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde, Marcel Ngombo assure la coordination de cette émission, Tati Mapoukou est à la réalisation au micro. C'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Bien, encore une fois, bienvenue dans ce programme, dans ce magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service, qui s'intéresse aujourd'hui à la COP 26, la conférence des parties 26. Eh bien, quelles sont les aspirations de la RDC à cette grande conférence? Eh bien, la COP 26, comme vous le savez bien, démarre très bientôt, ce 1er novembre, à Glasgow, en Écosse. C'est un sommet annuel qui réunit plusieurs nations pour discuter sur la question des changements climatiques. Elle fait partie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, un traité international signé par la quasi-totalité des pays qui vise à limiter l'impact de l'activité humaine sur le climat. Alors, quelles sont les aspirations de la République démocratique du Congo à cette grande messe de l'environnement? Eh bien, nous avons en ligne Madame Jeannette Boussingissi, chef des services de l'Agence congolaise de l'environnement. Madame Jeannette, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Guy Nkajemba, vous êtes également en ligne. Vous êtes coordonnateur du groupe des travail climat RED+. Bonjour. Guy Nkajemba, vous êtes là? Voilà. On va le retrouver tout à l'heure. Le temps d'accueillir Alain Parfait Ngulungu, représentant pays de Tenure Facility, une ONG basée en Suède. Alain Parfait, bonjour.
Bonjour et salut à tout le monde.
Bienvenue dans cette émission. Alors, nous commençons avec vous, Madame Jeannette Boussingissi. Pouvez-vous nous présenter d'abord cette conférence appelée COP 26?
Bon, pour moi, je dis que cette conférence, c'est une conférence où nous y allons, une conférence décisive, quoi. nous n'allons pas y aller à la conférence la RDC, on ne va pas aller à la conférence en tant que décommandeur, mais nous allons partir en tant que pays solution. Parce que la RDC est vraiment un pays solution. Quand vous regardez tout ce que nous avons, nos forêts, l'eau, tout, la biodiversité, quand vous regardez les écosystèmes, nous répondons à tout pour donner la solution et à ce qu'on appelle changement climatique, réchauffement climatique. Donc la RDC a une place très importante, mais il faut que nous puissions nous vendre nous-mêmes. Et hier, nous étions en réunion avec la VPM, elle nous a demandé d'y aller, pas en ordre dispersé, mais d'y aller unis, donc pour aller défendre la cause de la RDC.
Bien. Alain Parfait Ngulungu, dites-nous, vous êtes représentant pays des Tenure Facility. Quels sont les objectifs de cette grande conférence sur l'environnement appelée COP26?
Merci beaucoup pour la question. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ou soit à sa 20e édition, donc COP26, est un grand événement majeur qu'organisent les Nations Unies, qui réunit en fait des dirigeants de tous les pays du monde afin de convenir de la manière de pouvoir intensifier l'action climatique au niveau mondial, justement pour résoudre la problématique du réchauffement climatique. Et donc, il y a plus de 30 ans, les dirigeants mondiaux, lorsqu'ils s'étaient réunis à Rio, au Brésil, ils s'étaient engagés pour lutter de manière collective cette fois-ci contre le réchauffement climatique. Et c'est dans cette logique-là qu'on organise, au moins 2 ans après, une session consacrée aux discussions relatives à la manière dont l'humanité tout entière va se converger pour justement engager des actions pour lutter contre le réchauffement climatique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Voilà, donc c'est cela la COP26. Alors, les discussions vont tourner principalement autour de quelles thématiques?
Oui, il y a plusieurs questions débattues au cours de cette conférence des parties. Il y a un agenda précis qui établit les matières sur lesquelles, les thématiques sur lesquelles vont revenir, vont discuter tous les participants. Il y a notamment
le journaliste Watanu,
des forêts, il y a une brochette de thématiques qui va être explorée par les 197 de pays qui se réunissent au moins au cours de cette session-là. Et donc, il y en a vraiment une liste non moins négligeable de thématiques qui seraient débattues.
Voilà, il y a une liste non négligeable des thématiques qui seront débattues. Alors, Madame Jeannette Bosingui, si je reviens à vous, vous avez dit que la RDC s'est déjà préparée. On n'ira pas en ordre dispersé à ces assises. Alors, dites-nous, quels sont les sujets majeurs auxquels, disons, quel est le cahier des charges de la RDC à cette grande conférence de l'environnement?
Bon, pour dire le cahier des charges, le changement climatique concerne tout le monde. Et aujourd'hui, on est en train de lutter pour que on ne puisse pas dépasser les 1,5 degrés Celsius ou peut-être 2 degrés. Et je crois que comme la RDC, avec tout ce qu'il a comme potentiel, la RDC peut répondre à ce problème de changement climatique. Et même quand on dit que on va passer aux énergies renouvelables, la RDC a tout pour ça. Aujourd'hui, on parle on va faire des voitures, on va faire des batteries. Et c'est la RDC qui répond à tout ça avec ses richesses. Donc la RDC a tout pour une solution. Mais maintenant, c'est à la RDC de bien se défendre, c'est aux Congolais d'y aller, comme je dis. On nous a dit pas en ordre dispersé, mais cette fois-ci pour vendre. On nous dit aujourd'hui que les autochtones ne doivent pas couper, ne doivent pas faire ceci, ne doivent pas toucher à cela. C'est bon, mais il ne faut pas oublier que la forêt, c'est la niche écologique de ces autochtones, c'est leur pharmacie, c'est leur supermarché, c'est leur chambre, c'est leur tout. Mais en retour, quand vous demandez, ne touchez pas. En retour, qu'est-ce que vous donnez? Donc la RDC doit savoir comment est-ce qu'il va négocier pour que ces gens à qui on demande ne touchez pas, ne faites pas ceci, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? C'est, je crois que c'est comme ça que nous allons y aller, et pas en tant que la main tendue des quémandeurs, des en train de mendier, je ne sais pas quoi. Mais on doit cette fois-ci y aller parce qu'on a le potentiel pour donner une solution à ce qu'on appelle réchauffement climatique ou changement climatique. Nous avons nos forêts, on nous appelle deuxième poumon. Et pourquoi pas, je ne sais pas si vous avez vu, on peut être, mais on est le deuxième poumon, mais on est le premier poumon en Afrique. Et je crois que tout le monde, tous les Africains, nous devons nous mettre ensemble, surtout ceux du bassin du Congo, nous devons nous mettre ensemble pour lutter, parce que quand il y a changement climatique, ça n'épargne personne.
Bien, nous allons accueillir M. Guy Nkajemba, qui vient de me rejoindre dans ce studio. M. Guy, bonjour.
Bonjour, Jody.
Vous êtes coordonnateur du groupe des travaux Climat Plus, Climat Red Plus. Alors, nous parlons de la COP 26. Quelles sont les aspirations, que peuvent être les aspirations, d'après vous, de la RDC à cette grande messe de l'environnement?
Merci beaucoup. Je crois que c'est encore plus, c'est encore une occasion. Vous savez, les COP, il y en a eu beaucoup et ça a été plein de promesses. C'est depuis la COP 21 qu'on a promis de mettre à disposition 142 milliards de dollars pour les trois grands bassins du monde qui préservent un peu, qui séquestrent le carbone et qui préservent le climat. Mais ça ne s'est jamais réalisé. C'est avec la COP de Paris qu'il y a eu des ouvertures. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, nous allons là-bas pour demander aux pays de cette fois-ci, non seulement de tenir les promesses, mais d'être plus concrets. Vous voyez?
Délibérer les 142 milliards
de
dollars.
Oui, mobiliser les capitaux et libérer les mettre à disposition. Et après, il y a et je crois que c'est important. C'est ça le plus grand message qui se pose, parce qu'on ne veut pas, on va pas continuer à chercher à obtenir la neutralité carbone et avec les 1,5 degrés sans qu'il y ait des efforts d'autre part. Et ces efforts-là, on les sent toujours pas. Je pense que cette fois-ci, c'est une grande occasion pour faire la pression, pour faire un plaidoyer de très haut niveau, pour mobiliser toute la communauté du Sud et les communautés, les gens qui protègent les forêts, qui contiennent dans les bassins, de faire un effort pour que, en même temps qu'on veut qu'on protège les communautés, les habitats dans les forêts naturelles, parce que c'est important, c'est aussi un objectif de la COP 26, c'est bien, mais on va les protéger avec quoi? Et que donc nous tenons à ce qu'il y ait une mobilisation des capitaux, que ça soit plus ferme, qu'on puisse tenir les promesses et qu'on puisse libérer ça c'est au niveau global. Alors au niveau de la RDC, nous sommes très très requinqués aujourd'hui par une mobilisation très forte qui est de très haut niveau d'ailleurs, parce que je pense que cette fois-ci le message sera plus entendu parce qu'il sera porté par le chef de l'État lui-même. Et que donc nous espérons que nous serons plus attendus que jamais. Et pour qu'on puisse reconsidérer la RDC comme reconnaître la RDC comme un pays qui contribue énormément à la contribution. Et là, nous allons, les débats, nous allons bien les clarifier parce qu'on considère le bassin du Congo comme le nombre de pays qu'il y a. Et on les met à un même niveau. Je ne sais pas comment est-ce que s'il faut donner des moyens, on donne des moyens à des pays. Au moment où nous avons 60% de forêts, des bassins, et qu'il y a d'autres pays qui n'en ont que 5 ou 10 ou 15, ainsi de suite. Donc là aussi, il faut une justice distributive équitable qui permet à ce qu'on donne les moyens par rapport aux efforts qu'on a fournis ou qu'on doit fournir pour préserver les forêts.
Je vous ai entendu parler de la neutralité carbone. De quoi s'agit-il?
Il s'agit tout simplement de l'effort mondial pour que on puisse maintenir la température à 1,5 degré d'ici 2030 ou 2050. C'est ça. Donc, il faut d'ici 2030, qu'on puisse continuer à travailler.
À maintenir la température.
Ah, oui, pour qu'il ne puisse pas aller au-delà de 1,5, même si certains chercheurs nous prouvent qu'il y a des endroits déjà où on est à plus de 2 degrés.
Où, par exemple?
Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais il semble qu'il y a des pays déjà qui ont 2 degrés. Mais dans l'ensemble, on tient à ce qu'on puisse maintenir en moyenne, la température moyenne à 1,5 degré à notre portée.
Bien, Monsieur Alain, parfait. Ngulungu, vous avez suivi tout à l'heure Madame Jeannette Boussingui qui a parlé de véhicules, des voitures électriques. On en parle de plus en plus. Et les batteries, les matériaux vont provenir de la RDC. On parle du cobalt, du lithium qui servira à la construction de ces véhicules électriques. Donc ça veut dire que la RDC aura, on peut dire que déjà que la RDC sera beaucoup plus entendue au cours de cette conférence. Monsieur Alain. Parfait, Ngoyo.
À relever, qui est très important, la RDC ne doit pas seulement être attendre seulement du financement climatique sur le plan international. Au terme de l'article 3 de l'accord de Paris, la RDC est appelée dans sa contribution déterminée au niveau national à contribuer à la riposte mondiale contre les changements climatiques. Et à ce titre, donc, il incombe donc à la RDC de pouvoir mobiliser aussi sur le plan interne des financements pour faire face à la lutte contre les changements climatiques. Des fois, on oublie souvent que nous-mêmes aussi, en tant que pays, en tant que partie à l'accord de Paris, nous sommes appelés à financer les efforts de lutte contre les changements climatiques. Il y a des planifications qui ont été faites juste là, justement, quant à ça, notamment les plans nationaux d'adaptation. Nous sommes aussi en plein processus RED Plus depuis juin 2009. Et donc, nous sommes appelés nous-mêmes en tant qu'État responsable, sous le leadership du président de la République, à pouvoir contribuer comme le font si bien d'ailleurs d'autres pays au monde, au lieu de s'attendre seulement au financement climatique international. Et donc, là aussi, j'ouvre une brèche pour dire que dans notre CEDEN, qui a été pour la première fois présenté en 2015, il y a une année, elle a été révisée. Et donc la RDC a réitéré ses engagements, son engagement plutôt, ou son ambition de pouvoir réduire ses émissions de plus de 20% d'ici 2030. Et donc les efforts maintenant, c'est de mobiliser les capacités sur le plan interne, mais aussi, peut-être, il faut attendre, je crois qu'on l'a rappelé ici, on attendait les 100 milliards de dollars qui apparaissent comme une machine à gaz qui n'a rien produit depuis... Depuis la COP tenue à Copenhague en 2009. Et donc, il faut absolument prendre cette responsabilité-là en tant qu'État de pouvoir mobiliser aussi les financements climatiques, mais au niveau interne, pour justement vouloir contribuer à l'action climatique telle que décrétée par les Nations Unies.
Bien. Patrick Saïdi, vous êtes coordonnateur de la dynamique des peuples autochtones. Bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les attentes des peuples autochtones à ces assises, à la COP26?
Oui, donc les attentes des peuples autochtones pygmées, surtout de la RDC, par rapport à ces assises de COP26 à Glasgow, d'un côté, c'est de rappeler aux dirigeants mondiaux que la solution par rapport à ces fléaux, c'est une solution qui doit être fondée sur la nature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons, avec la hausse de la température, on se rend compte que c'est la forêt qui est au centre et qui peut constituer une solution durable, effectivement, par rapport à ces fléaux. Or, que quand on parle de la forêt, on voit les autochtones pygmées qui ont su garder ces massifs forestiers qui font la fierté aujourd'hui dans cette lutte contre les changements climatiques. Ça peut être au niveau du bassin du Congo, ça peut être au niveau du bassin de l'Amazonie, mais aussi du bassin indonésien. Mais malheureusement, ces efforts consentis par ces communautés jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été valorisés à leur juste titre. Et c'est là où, par rapport à nos attentes, d'un côté, c'est de voir comment on arrive d'abord à sécuriser les zones où vivent ces communautés-là, c'est-à-dire leur tenir foncière qui, par la suite, sécurise la forêt. Et avec la sécurisation de la forêt, on arrive à donner une réponse durable face aux enjeux liés au climat, mais aussi à la préservation des biodiversité, gage d'un développement durable. Une autre attente, c'est de dire comment on arrive à responsabiliser effectivement ces communautés qui ont su jouer ces rôles historiques dans la préservation de ces massifs forestiers en leur accordant des moyens qu'il faut, afin qu'ils continuent à perpétuer cette lutte-là. Et enfin, c'est accompagner les gouvernements congolais. Comme vous le savez, il y a la loi en faveur des peuples autochtones qui est en gestation d'adoption au niveau du Sénat. Mais c'est de savoir comment on arrive à mobiliser des fonds pour que le gouvernement congolais soit à même effectivement de mettre en œuvre effectivement cette loi qui irait d'un côté vers la sécurisation, la reconnaissance des droits des autochtones pygmées, mais aussi une loi qui va leur donner des outils supplémentaires dans ce travail de préservation de ces forêts que nous, on considère comme solution durable dans ces processus de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est la conscientisation, la responsabilisation et la préservation des zones où vivent ces derniers et qui constituent une solution par rapport à cette lutte mondiale qui nous concerne tous.
Bien, merci Patrick Saïdi, coordonnateur de la dynamique des peuples autochtones. Excellente journée.
Alors, c'est moi qui vous remercie.
Monsieur Guinka Jemba, vous avez suivi les attentes des peuples autochtones. Votre réaction là-dessus?
Bon, c'est tout à fait légitime. Je l'ai toujours dit ici que nous avons une responsabilité historique de la protection des forêts. Nous ne sommes pas comme le Brésil qui a une représentation future. On ne peut pas. Nous sommes à 0,2%. Nous avons une forêt qui est intacte presque dans la grande partie. Et dans ces forêts, il y a des peuples autochtones qui vivent dedans depuis des décennies et des siècles. S'il fallait parler de la déforestation, s'il fallait parler de la destruction de forêts historiquement, on allait, en principe, il devait être le premier responsable. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a des forêts et ces populations contribuent énormément à la protection de ces forêts par leur mode de vie. Donc, c'est vraiment important. Je crois que c'est important qu'on puisse toujours y revenir. Mmh. Je vais revenir sur sur ce que mon collègue expert Alain Ngulungu a dit. C'est que c'est le financement que nous sommes en train de vouloir capter au niveau de la COP. Ce ne sont pas des financements, on ne va pas commander. C'est pas pour dire que c'est finalement notre propre argent, parce que nous, on parle toujours de ce processus comme une mobilisation de paiement basée sur les résultats ou alors de rétribution aux efforts consentis. Et que donc, ce ne sont pas les financements déjà fonds perdus où on dit qu'on tend la main. L'humanité a l'obligation pour essayer un peu de maîtriser disons ce que j'ai appelé la neutralité carbone, de maîtriser la hausse de la température à moins de 1,5%. Mmh. A l'obligation de mettre des moyens pour permettre à ce que les pays qui contribuent énormément à cet équilibre là puissent avoir faire un travail qui va de soi. Et de là, la RDC ne se présente pas avec les mains vides. Nous avons une contribution déterminée nationale qui est chiffrée, qui est claire, qui présente un certain nombre d'engagements au niveau interne. Et c'est ça, les engagements sont chiffrés.
Donc vous avez dit les 142 milliards là, c'est un montant qui a été promis à tous les pays où il y a les bassins, le bassin du Congo et puis les autres.
L'Amazonie. Costa Rica et le Brésil. Et l'Indonésie.
Les autres ont déjà reçu, sauf la RDC, le bassin du Congo.
Ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est une promesse et que depuis la COP de Paris qu'aujourd'hui, on n'a pas encore réalisé et nous voudrons que cette fois-ci, ça soit plus clair, que ça ne s'arrête plus au niveau des promesses. Vous savez, c'est souvent ça, on annonce les effets d'annonce, on annonce des choses, on quitte la COP, on est un peu requinqué, on est content, on dit, bon voilà, on a arraché. Mais finalement, pour mettre de l'argent dedans et pour prendre la stabilité, ça n'avance pas. On espère que cette fois-ci, à la COP, les choses vont avancer, parce qu'on voit un peu la volonté de l'Italie et de la Grande-Bretagne qui sont en train de pousser, et la volonté aussi au niveau international où il y a beaucoup d'engagement, et donc, et surtout avec les changements aussi au niveau des États-Unis qui avaient un peu, à un certain moment, c'était rétracté.
Avec l'administration Trump.
Oui, maintenant, avec la nouvelle administration Biden, on espère qu'avec tout ça, on pourra avoir une possibilité d'emmener les G20 et les autres pays à respecter les engagements. Et pas seulement respecter, mais aussi donner une feuille de route claire pour que nous puissions nous rassurer que ces financements seront là et que nous allons continuer à préserver.
Mais Alain Parfait a parlé aussi des financements internes. On doit s'organiser sur le plan interne pour financer nos projets.
Oui, la première organisation, c'est le financement interne, c'est d'abord le travail qu'on doit faire pour respecter nos engagements. Vous comprenez? Nos engagements, c'est-à-dire qu'il y a des engagements sur lesquels nous devons travailler en termes de la gestion, orthodoxe de nos forêts, un ensemble d'engagements qu'on
prend. Lesquels? Pouvez-vous citer quelques engagements?
Bon, les engagements, il y a par exemple la question de moratoire qui est toujours là, la question liée à la transparence ou à la gouvernance forestière avec tout ce qu'il y a comme administration, transparence, comme tous ces éléments-là, comme les questions de concession, Et toutes ces choses-là peuvent aller dans le sens de ne pas tenir les promesses d'engagement, la déforestation elle-même, tout ce qu'il y a comme, la mauvaise gestion des espaces forestiers et tout ça. Où les communautés ne trouvent pas d'alternative et ils se mettent à couper les forêts, au moins on s'est engagé au niveau international de les protéger. Donc ça, c'est une chose. Évidemment qu'il y a d'autres activités au niveau interne, notamment, on en a parlé aussi ici, notamment les énergies renouvelables, le véhicule électrique, la déforestation évitée et tout ça, la reforestation et la déforestation.
Des projets d'adaptation et de résilience.
Tous ces éléments viennent aussi pour compléter. Parce qu'en fait, il y a un niveau où on doit travailler sur l'adaptation. Ce que nous faisons, ce que nous nous revendiquons beaucoup plus au niveau international, c'est au niveau de l'atténuation, au niveau des efforts qu'on a consentis, au niveau des services que nous rendons.
Donc, nous rendons l'atténuation des effets de.
Nous rendons des services. Notre écosystème rend des services importants à l'humanité et à ce niveau-là, nous avons un droit. On ne doit pas donner, ce sera calculé. Ça sera calculé et c'est chiffré par rapport à notre contribution de tribunal national.
D'accord. On va accueillir un auditeur, Justin Kalabia, depuis Arou. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis bonjour à nos invités du jour.
Quelle est votre question par rapport à la COP26?
Oui, merci beaucoup par rapport à la COP26. C'est un très beau thème que j'apprécie. J'ai trois questions, monsieur, aujourd'hui.
Oui.
Oui, la première question, c'est comment on arrive à récompenser les États qui ont protégé mieux, qui protègent mieux leur environnement, comme le cas de la RDC. La deuxième question, monsieur, aujourd'hui, les pays occidentaux qui ont déjà pollué leur environnement à tel point qu'un réchauffement climatique se reste déjà. Y a-t-il un moyen financier que ces États donnent aux pays africains qui continuent de préserver tout ce qu'il y a comme potentialité? Faut-il d'industrialisation? La troisième question. Qui a la compétence de sanctionner un État qui se comporte mal face au changement climatique? Voilà mes questions, monsieur. Je vous remercie.
Bien, merci. Madame Jeannette Bosingui, si vous avez la parole, vous avez certainement suivi les différentes préoccupations de notre auditeur Justin Kalabia. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Madame Jeannette, vous êtes là? Voilà, elle n'est plus en ligne, on me fait signe. Ah, monsieur Alain Parfait, vous avez la parole.
Ok. Pour répondre à la question de notre compatriote qui cherchait à savoir comment récompense-t-on les pays qui ont protégé leurs forêts, évidemment, selon l'évolution du droit international sur l'environnement, il y a eu plusieurs instruments juridiques internationaux qui ont été mis en place, notamment à partir de la Convention de Rio. Il y a eu trois grandes conventions, notamment la Convention sur la diversité biologique, la Convention en cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention sur la désertification. Et ce sont ces trois instruments qui ont justement mis en place des dispositions juridiques pour orienter toute l'action mondiale devant lutter contre les changements climatiques. Mais en ce qui concerne la protection des forêts, il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment des mesures qu'on appelle des réductions d'émissions dues à la déforestation, à la dégradation de forêts, pour justement procéder à l'atténuation climatique. Et là, c'est sur l'aspect de pouvoir vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les pays qui s'engagent dans ce processus sur la REDD+ ont justement des financements appropriés disposés par la communauté internationale. Nous avons expérimenté depuis 2009 lors du lancement du processus REDD+ où nous avons reçu des fonds pour justement contribuer à l'atténuation climatique. Et il y a une stratégie cadre REDD+ qui est mise en place où des piliers importants ont été ciblés pour justement nous permettre de pouvoir faire face aux effets des changements climatiques. Il y a notamment les piliers sur l'énergie l'agriculture, les mines, sur la gouvernance. Et donc, nous avons procédé, durant toute cette période-là, à certaines réformes, comme vous en avez vu dans l'aménagement du territoire et, la, et dans le secteur foncier, où il y a des réformes qui sont procédées. Bientôt, là, on va procéder à l'adoption de la politique foncière. Ce sont des initiatives qui concourent justement à la lutte contre les changements climatiques, évidemment qui ont bénéficié aussi des financements appropriés, qu'on appelle financement climatique, et comme étant une récompense pour tous les efforts d'atténuation que nous fournissons pour faire face aux effets des changements climatiques. Voilà, la première question, ce que je peux dire. Bon, par rapport aux pays du Nord, les pays du Nord ont justement, grâce à l'industrialisation, procédé à une déforestation poussée. Et si vous arrivez aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux, vous constaterez qu'ils ont un taux de déforestation très élevé par rapport au nôtre. On l'a rappelé ici, nous avons un taux de déforestation de 0,3, selon les chiffres de la FAO, mais les pays du Nord ont un taux de déforestation très très avancé. Mais ce qui est important, l'accord de Paris de 2015, c'est un accord contraignant qui exige aux États de prendre des mesures idoines, notamment en matière d'adaptation et d'atténuation climatique, pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques.
Monsieur Alain, parfait. Depuis cet accord de Paris, qu'est-ce qui a changé en République démocratique du Congo? Si on doit faire un bilan aujourd'hui, depuis la signature de cet accord.
Oui, ce qui a changé, le pays s'est engagé sur la voie des réformes pour mettre en place des planifications sensibles au changement climatique. Je prends l'exemple, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, notre plan national stratégique de développement pour la période 2019 à 2023 a eu des déclinaisons importantes, notamment sur la valorisation du capital humain, le développement social et culturel, mais il y a aussi un pilier important relatif à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique, qui est d'ailleurs un pilier transversal qui va nous aider justement à renforcer les capacités de toutes les institutions, évidemment en intégrant les aspects environnement, les aspects des questions du changement climatique dans toutes les stratégies sectorielles pour aboutir à un modèle de développement à faible intensité carbone et résilient au changement climatique.
Bien, on va accueillir Jean-Claude Bouchiri, membre de la société civile environnementale des Kindu au Maniema. Jean-Claude Bouchiri, bonjour.
Oui, bonjour Lobby, bonjour à tous les invités.
Voilà, bientôt la COP 26 aura lieu en Écosse. Alors, vous êtes de la société civile de Kindu au Maniema. D'après vous, que peuvent être les aspirations de la RDC à cette grande conférence?
Non, les aspirations, c'est d'avoir un langage commun. Vous savez, parfois, lors de toutes ces rencontres, les organisations de la société civile, le gouvernement et les autres parlent de langages différents. Voilà pourquoi nous ne bénéficions pas de ça. Bien entendu, j'ai entendu M. Alain Parfait dire que non, nous ne devons pas tout simplement attendre le financement. Mais nous ignorons que la RDC, le bassin du Congo, c'est le second bassin après l'Amazonie. Et la RDC, c'est au plus de 60%. Mais ici, chez nous, on ne sent pas ça. Même la population ne comprend presque absolument rien. Donc, il faudra au moins une mobilisation de la part de toutes les sociétés, que ce soit les organisations de la société civile, l'État congolais lui-même et les autres partenaires. Parce qu'il y a un invité qui dit la forêt, c'est une niche écologique, par exemple, pour les peuples autochtones. Mais le peuple autochtone ne m'est pas intéressé. Lui, le peuple autochtone, est méconnu. Il ne connaît absolument rien de ce qui se passe au niveau des. Voilà pourquoi il faudrait, du moins, comme je l'ai dit la fois passée, faire des propagandes, des mobilisations, tous azimuts, au fin fond. Moi, ici, chez nous, au Maniema, nous avons le peuple autochtone au niveau de Kabambare, au niveau de Kibombo chez les Baïna et au niveau de Caïm. Mais ces peuples autochtones sont totalement oubliés et ils ne connaissent absolument rien. Peut-être juste les gens qui s'adonnent pour se rendre au niveau de là, avec les faibles moyens, avec les faibles les ressources, pour au moins faire entendre leur voix. C'était ça au moins ma petite préoccupation aujourd'hui. Bonne journée à vous.
Merci pareillement Jean-Claude Bouchiri, membre de la société civile environnementale des Kindu au Maniema. Malonga nous appelle des Bandunduville. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à notre invité, bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la COP26?
Oui, ça va. Bon, d'abord, je commence par cette question. qui est vraiment, en tout cas pour les Congolais, et c'est pour tous les environnementistes, ont besoin d'avoir une réponse exacte. Depuis la côte 1, 2, 3, jusqu'à arriver à 25 d'abord, puisque 26 n'a pas encore eu de résolution. Qu'est-ce que la RDC a déjà bénéficié, que nous pouvons compter que oui, c'est suite à ces couples-là, aujourd'hui nous sommes comme ça, en paquet, deuxième poumon de cette planète. Puisque, de facto, la RDC et le Brésil ont le droit de participer à chaque COP. Ce sont eux qui sont vraiment les promoteurs de la vie de cette planète. Après cela, je dis, vraiment, il y a des problèmes dans notre pays. C'est le ministère du développement qui doit d'abord organiser la préparation de cette conférence. Avant de partir, pour les environnementalistes, puisque au Congo, nous avons 26 provinces et 26 divisions de l'EDD. Mais, on va organiser tout ça, nous qui gérons l'environnement dans notre pays, et le problème qui sera traité là-bas, nous ne sommes pas au courant, nous sommes sous boule. Oui, nous avons les chefs de division, ils sont là. Or, ce sont les chefs de division qui devraient être en tête pour tout ce qui sont ceux qui connaissent l'environnement, selon l'administration et les techniques, sont les techniciens.
Oui.
Mais je dis, on va constater seulement que la porte est là, il est ce qui était parti là-bas, que nous qui gérons l'environnement dans le pays.
Vous n'avez pas été associés. D'accord, je vais poser la question à nos invités. Monsieur Ginka Jemba, est-ce qu'il y a eu des réunions préparatoires où on a réuni tous les environnementalistes pour se préparer à aller à la COP23, pour éviter, comme Jean-Claude l'a dit, pour avoir un langage commun?
Oui, merci. Je vais d'abord revenir sur la préoccupation des auditeurs par rapport à la succession de COP sans résultat.
Oui.
Nous l'avons dit aussi ensemble, mais je peux vous dire que par rapport à ça, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Donc, pour que le monde entier puisse prendre conscience des dangers du changement climatique, il y a eu un temps. Il y a eu des chercheurs et ça, on a passé par les mécanismes de développement propre où on n'a pas pu avoir des réponses. Et après, on a réfléchi sur la réduction des émissions liées à la dégradation des forêts. Et c'est là où on a compris que c'est avec les forêts, qu'en ajoutant les forêts, on peut avoir des solutions.
Donc, d'après Malonga, il y a eu 25 réunions comme ça et la RDC n'a toujours rien bénéficié.
Et après ça, il n'y a pas seulement que la RDC, il fallait aussi qu'il y ait des consensus. C'est-à-dire qu'il y avait des responsabilités qu'on s'est rejetées mutuellement par rapport à la responsabilité des émissions entre les États, les grands États, la Chine et les États-Unis et les autres. Et donc, tout ce débat-là, ça a pris beaucoup de temps, c'est vrai, et que ce soit la RDC, que ce soit les autres. On est encore au niveau, comme on dit ici, de tenir des promesses. Donc, on est encore. Il y a un travail qui a été fait avec la convention cadre de la société du changement climatique, qui a, avec tous les chercheurs qui ont pu donner le GIEC, qui a pu alerter, parce qu'il fallait aussi alerter le monde et faire prendre conscience aux gens. Maintenant, au niveau, c'est vrai qu'au niveau, à notre niveau, depuis que nous sommes là, c'est depuis 2009 qu'on est tenté de suivre ce genre de COP, nous avons eu très peu d'intérêt au niveau national par rapport à la question. Et que donc, il n'y avait pas eu suffisamment de mobilisation pour ramener, en fait, l'État congolais et l'ensemble du Congo à comprendre la donne du changement climatique et la RED. Et je suis très convaincu que tous ceux qui nous parlent en province n'ont pas eu le temps. Et nous faisons un effort, nous, comme groupe de travail Climat RED Rénové, d'essayer un peu de faire des sessions de renforcement des capacités entre les différentes parties prenantes sur la question. Parce que c'est une nouvelle question. Et nous avons eu la stratégie en 2012. Et que donc, il y a encore un travail à faire à ce niveau.
Est-ce qu'il y a eu des réunions préparatoires de cette COP26?
Nous venons d'une réunion déjà hier avec la vice-première ministre. Et il y a eu des réunions. Et maintenant, ici, chez nous, à notre bureau, il y a une réunion. C'est-à-dire qu'il y a des réunions préparatoires et c'est pour une fois d'ailleurs qu'on dit qu'il y a un intérêt. Nous avons réalisé.
Malonga déplore qu'il est, je crois, chef de division là-bas de l'environnement dans le banc d'Undou, mais il n'est pas associé à ces.
Je ne peux pas entrer dans la gestion dans la gouvernance de nos administrations. Il y a à boire et à manger. Ils savent comment ils fonctionnent à ce niveau-là et quelles sont les difficultés qu'ils ont à l'interne. Mais nous, dans les discussions, dans toutes les discussions qu'on a, on est avec les autorités, on était avec le secrétaire général, avec le directeur de forêt, avec le négociateur, on était avec presque tout. C'est une problème de restitution. Moi, je suis en train de restituer chez moi, je te sers maintenant. Et que donc, c'est à ce niveau-là.
Et vous avez déjà ensemble déterminé les axes, voilà, la RDC va beaucoup plus parler des les cahiers de charges comme
oui, mais comme j'ai dit, on a dit que nous devons nous présenter comme une solution à la lutte contre le changement climatique à une condition qu'on soit rémunéré, qu'on soit payé pour ces efforts qu'on va fournir. C'est pas compliqué. Et donc nous, la RDC, nous évidemment en tenant compte, comme on a dit ici, comme tous les amis l'ont dit, des gardiens de forêt, des gens qui ont, des personnes qui contribueront à ce que ces promesses-là que nous allons prendre, nous, à travers notre CEDEN, et qu'elles vont prendre à travers des engagements financiers, que ces promesses-là soient réalisées. Voyez-vous?
Monsieur Alain Parfait Ngulungu, votre réaction?
Oui, il faut bien comprendre comment fonctionne l'accord de Paris. Il y a des procédures qui ont été établies, notamment dans l'article 2.2, qui appellent notamment au respect strict des principes, notamment de l'équité, de la participation publique à la lutte contre le changement climatique, mais aussi au principe de ce qu'on appelle les responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives eu égard aux différentes situations nationales. Quelle est la situation de gouvernance actuellement de la RDC pour qu'elle bénéficie des financements climatiques adéquats pour faire face à la lutte contre le changement climatique? Quelle est la situation de la pauvreté? Quelle est la situation de la démocratie pour être en mesure de pouvoir attirer ces financements-là vers l'État? Je crois que ce sont des questions que les Congolais devraient se poser avant de se faire compenser. Parce que, vous savez, le financement vert, c'est vrai, il y a des flux importants qui circulent, mais ça ne tombe pas dans chaque marmite. Il y a des marmites où, par exemple, un pays comme le Brésil en a capturé plus d'un milliard.
Et la RDC n'arrive pas à capturer ces financements.
Non, la RDC a bénéficié de 200 millions de fonds CAFI à travers le Fonds national REL+. Ce que les gens ne disent pas, cet argent, ce n'est pas le gouvernement congolais qui l'a géré. C'était les organisations internationales implantées ici qui ont géré ça. Pourquoi n'avait-il pas donné ces financements-là à l'État congolais? Ce sont des questions que les Congolais doivent se poser.
C'est à cause de quoi? De la mauvaise gouvernance?
Bien entendu. Et c'est le gouvernement, à travers la lettre d'intention, qui a négocié cela, notre propre gouvernement. Aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas que les gens se lèvent, hein. Il faut voir ce qu'on appelle dans la géopolitique des changements climatiques, tous ces aspects des problèmes, tous ces conflits qui naissent justement à l'issue du processus de négociation internationale sur les changements climatiques. Donc il y a d'autres aspects, peut-être on en trouvera à une autre occasion pour expliquer cela en détail, pourquoi la RDC n'est pas en mesure de captiver ces fonds-là. Ça ne suffit pas d'aller à la chasse pour aller chercher de l'argent, parce que les mécanismes établis, les procédures juridiques établies ne nous permettent pas en cet état de pouvoir bénéficier de ces financements. On peut beau crier sur le toit, mais tant qu'on ne met pas de l'ordre dans la maison, donc je crois qu'on aurait moins de chances de pouvoir attirer ces financements climatiques.
Oui, sûrement, ces partenaires savent que la RDC est un pays qui fait face à la corruption, à la mégestion, etc. Et tout ça, peut-être, ça porte un coup dur à la crédibilité du pays.
Ce sont des vérités que les officiels ne nous disent pas.
Bien. Monsieur Guy Nkajemba.
Oui, je crois que... c'est un peu dur, hein. Mais moi, je suis très convaincu parce que dans toutes les négociations, on repose la même question. Dans toutes les négociations, j'ai été à Bruxelles, on a été à Washington, on a été à Paris pour négocier le financement, même le financement qu'a fait les autres. On nous ramène sur la même question. Et nous reposons la question de savoir... Est-ce que la gouvernance a affaire avec... Si on était mal gouverné, c'est qu'ils sont gouvernés qu'ils créent leur forêt. Que les États-Unis créent sa forêt. Ou que ceux qui acquisent le pays d'être mal gouverné qu'ils créent les forêts. Donc le débat, en réalité, on comprend que ça pose un problème au niveau interne, mais le débat n'est pas au niveau de bloquer le financement ou de refuser d'appuyer la RDC parce qu'on estime qu'il y a un problème de gouvernance. Ça, c'est ça, les questions, les mécanismes que le processus, la stratégie a mis en place, la stratégie nationale, sont des mécanismes qui essaient un peu de sécuriser. Et c'est là où on a créé un fonds, le fonds national, au niveau international. Mais ça n'empêche pas, parce que c'est, le débat est que si aujourd'hui on entre dans ces discussions pour refuser, comme on refuse ailleurs, c'est qu'on met l'ARS dans les conditions de ne pas respecter les engagements internationaux.
Parce qu'il semble que le Brésil a bénéficié plusieurs fois des financements, mais pas la RDC.
Oui, mais c'est parce que le Brésil a eu un comportement effectivement comme celui-là. Il s'est comporté comme disant, moi, je dois me développer parce que vous refusez de me financer, moi je vais couper les forêts. C'est ça le danger. C'est-à-dire que la communauté internationale ne peut pas, enfin, j'ai réfléchi. Je sais que c'est toutes les civils internationales vont dans ce même sens que notre expert Alain. Mais moi, nous, quand on arrive, on dit nos forêts ne dépendent pas de la gouvernance. D'ailleurs, plus que nous avons comment est-ce qu'on peut être, on peut présenter un potentiel forestier de plus de 60% dans le bassin et qu'on dit que non, mal gouvernant, on ne finance pas. Finalement, ça, c'est notre débat. Parce qu'à ce moment-là, nous, d'abord, on revendique la conservation historique, mais en même temps aussi, si on veut et on tient à se développer comme le Brésil. Maintenant, ici, on est en challenge avec le Brésil, parce que par moi, on est premier poumon, par moi, on est deuxième. Parce que le Brésil hésite un peu dans des engagements par rapport à la protection ou à l'expansion industrielle dans les forêts. Et donc, moi, je crois que nous continuons à avoir ces droits-là. Je crois que nous avons un plan d'investissement. Nous avons une stratégie nationale qui met un peu un certain nombre de garde-fous et des conditions pour la gestion de ces financements-là. Notamment, il y a des outils qui existent et qui ont été créés dans la transparence, notamment et tout ce qui est que le mécanisme de gestion des plaintes, des plaintes de partage de bénéfices, afin de le système MRV, tout le reste. Donc, je ne pense pas qu'à la COP26, il y a quelqu'un qui va se présenter devant nous pour nous dire vous n'avez pas droit à ce financement parce que vous êtes mal gouverné. Nous l'acceptons, nous sommes dans le pays tiers et nous ne serons pas bien gouvernés.
La corruption,
aujourd'hui,
tout ça, oui.
C'est pas maintenant, c'est pas à ce moment ici. Mais est-ce qu'on tient à ce qu'en 2030, qu'il y ait une réduction de la température?
Peut-être que les bailleurs veulent aussi des garanties, que l'argent sera bien géré.
Si on peut vivre avec l'idée, c'est-à-dire refuser de financer.
Oui.
À cause de la corruption et attendre que la température est à 3 degrés. Bon, nous sommes d'accord, mais moi, ce que nous savons, c'est que nous ne sommes pas les premières victimes, enfin, les premières ou les seules victimes du changement climatique.
D'accord, on va accueillir des auditeurs. Bienvenue à Kinshasa, héritier, nous appelle des Bounia. Bienvenue, bonjour.
Oui, bonjour, je dis, bonjour Radio Okapi.
Quelle est votre question par rapport à la COP26?
Oui, j'aimerais faire une petite mise au point. J'ai suivi bien les invités et qui ont commencé. Ils disent, nous avions la COP historique, la COP 21 de Paris en France. Depuis ce moment-là, les pays donateurs ou les grandes puissances ont signé des engagements de donner les fonds aux pays qui détiennent les forêts. Mais jusque-là, la RDC, notre pays, n'a rien bénéficié. Moi, je me pose la question, est-ce que nous pouvons rester toujours là, en train de demander, en train de chercher quelque chose. Parce que si nous voyons en termes réels, nous-mêmes à l'interne, on ne prend même pas le temps de respecter nos forêts. Si on entend par-ci, par-là, les concessions ou les milieux dits protégés, il y a les gouvernements qui octroient les concessions forestières. Ça fait pas longtemps, nous avons suivi l'ancien ministre de développement de l'environnement avait octroyé des grandes concessions dans la province de l'Équateur. Pendant que nous-mêmes à l'interne, on ne sait pas respecter les forêts. Comment est-ce que nous voulons les pays développés puissent nous compenser si nous-mêmes on ne peut pas faire de ces forêts-là?
Bien, merci, bienvenue. Héritier de Bounia, bonjour. Héritier, vous êtes à Bounia, bonjour. Bien, il n'est plus là. Monsieur Alain Parfait, Ngulungu.
Merci, je vais répondre à la question de notre compatriote, le tout dernier. Effectivement, je crois que notre compatriote a raison de dire qu'on ne doit pas toujours attendre ce financement-là international qui a été aussi sapé par les crises économiques que nous avons connues ces dernières années, mais notamment aussi la pandémie Covid-19. Donc, il ne faut pas vraiment attendre grand-chose de ce financement. Mais il y a une autre fenêtre, celle de pouvoir concilier la problématique ou l'action climatique à notre développement, au développement économique. Comment on peut y arriver? Aujourd'hui, il a été démontré qu'à travers des mesures d'une politique économique, basé sur le développement durable, on peut beaucoup plus créer d'emplois, des emplois décents, j'allais dire. On peut améliorer notre agriculture, on peut développer l'écotourisme, on peut donner une valeur économique à toutes les ressources hydriques que nous avons. Vous savez, nous avons plein de rivières. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les stress hydriques mondiales. Et donc, l'eau devient un enjeu économique important. Et donc, si nous mettons en place des politiques publiques dans le contexte du développement durable, on peut s'attendre à avoir des ratios économiques importants qui peuvent booster aussi notre développement. Donc, on doit tourner les regards maintenant vers là. Parce que s'il faut attendre le financement climatique international, chaque pays aujourd'hui, suite à la pandémie COVID-19, a des sérieux problèmes économiques. Donc, il ne faut pas attendre beaucoup sur l'aide publique internationale pour pouvoir faire face à la lutte contre le changement climatique. Mais, comme vous le savez, nous subissons déjà les conséquences graves du changement climatique. Voyez comment le calendrier agricole a été pratiquement
perturbé,
entamé par ces effets. Voyez à Mwanda, là, sur le littoral, comment les érosions sont en train pratiquement de gagner des millimètres de terre. Voyez comment il y a des perturbations climatiques ici à Kinshasa. Vous voyez les régimes hydriques, comment ça a changé, pluviométrique, j'allais dire, comment ça a changé pratiquement à Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui déjà on tend vers la fin du mois d'octobre, mais il n'y a pas assez de pluie comme on en a vécu il y a 15-20 ans passés. Et donc c'est nous qui subissons les coûts, les surcoûts financiers de ces effets-là du changement climatique sont énormes par rapport aux pays du Nord qui ont assez de moyens pour s'adapter et atténuer les gaz à effet de serre. Et donc, c'est notre responsabilité d'abord en tant qu'État de pouvoir mettre en place une politique économique sensible au changement climatique. Ce n'est pas aux étrangers de le faire, ce n'est pas à la communauté mondiale, bien que nous subissons tous pratiquement les effets, mais de manière différenciée par chaque État. Et donc, mon appel, mon plaidoyer est que les Congolais, c'est vrai, on se présente à la COP26 comme un État solution, mais qu'est-ce que vous amenez à la main? Vous n'allez pas amener une facture pour demander à la communauté internationale. Il faut amener des solutions basées sur la nature. Qu'est-ce que vous pensez faire de vos écosystèmes forestiers pour pouvoir améliorer votre niveau de vie, pour pouvoir relancer votre économie après la pandémie COVID-19. C'est ça, c'est autour de ces axes-là qu'on peut fonder justement notre action climatique en tant que pays solution comme les officiels les présentent actuellement.
Bien, Alain Parfait Ngoulungou, représentant pays des Tenure Facility. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, M. Ginka Jemba, on va clôturer cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on retient par rapport à la COP26 qui commence très bientôt?
On retient des choses. Mm-hmm. On retient que ce n'est pas avec la COP26 qu'on va réorganiser ces pays. Mm-hmm. Et le pays est tel qu'il est. Il est gangréné par la corruption. Nous avons tous un ensemble de
la mauvaise gouvernance. Tout ça.
Ce n'est pas avec la COP26 ni avec le débat sur le climat qu'on va régler toutes ces questions. Mm-hmm. Et donc, il ne faut pas que nous nous perdions. Nous retenons aussi que la COP26, il y a quatre objectifs. Il y a quatre objectifs qui sont importants, c'est-à-dire la neutralité carbone, l'adaptation pour les communautés locales, la mobilisation de capitaux et le coopérer ou plaider pour pour que les promesses soient tenues. Mmh. Là, nous sommes très contextuels. Hein, nous ne nous perdons pas sur la gouvernance de la République et on ne va pas déplacer ce débat pour aller amener autre chose. Et que donc, nous, comme on a dit, comme pour une fois, je pense que la partie gouvernance forestière peut être différente de la gouvernance minière, parce qu'au moins dans la gouvernance forestière, nous avons des fenêtres, nous avons une voix pour essayer un peu de c'est aussi comme le matériel, ce sont les ressources naturelles. Mmh. C'est-à-dire que nous vendons, on ne demande pas, ce ne sont pas des financements à fonds perdus et ce ne sont pas des aides. On ne demande à personne d'aider la RDC par rapport à cette question-là. C'est différent, vraiment, il faut que dans notre tête, on puisse faire la différence avec cette question.
On ne va pas demander, mais nous, notre forêt est en train de protéger le...
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment,
une contrepartie.
C'est une contrepartie et donc là, on n'est pas là, la commission n'est pas, on ne demande rien à la communauté nationale. D'ailleurs, c'est elle qui a l'obligation. Parce qu'en fait, je sais que c'est souvent avec la communauté nationale qu'il y a des problèmes.
D'accord. Merci, M. Ginka Jemba, coordonateur du groupe de travail Climat Red Plus. Excellente journée et à la prochaine.
Oui, groupe de travail Climat Red Rénové.
Rénové. Merci. D'accord. Merci pour la précision.